טוב, אז בעזרת השם ובעזרת דבור, סצמן זה פרשת
כתבו.
אז לא, לפרשת כתבו, תו מונסיס כי הדודן?
לא.
דקללות, דמלדיקציון. פרשת טרי טרי דור, דקור? 98 מלדיקציון. אטרוס. 98, הוריבל. דמלדיקציון הוריבל. On a l'habitude de les lire, le Baal Koré à ce moment-là, c'est la montée où il lit le plus vite de son année. Ta 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 ta, vite, vite, vite. Si on les entend pas trop bien, c'est pas très grave. D'accord ? Au contraire même. C'est marqué qu'il vaut mieux les lire. On les lit vite. Il y en a qui ont le minac de les lire très doucement, presque à voix basse. C'est pas un trop bon minac parce que tout le monde doit entendre, quoi qu'il arrive, la Kriyata Torah. D'accord, on est obligé d'entendre la Kriyat Torah. Juste on la lit vite pour pas, même à Kedekar qu'elles sont dures, les brachot qu'il y a certains mots qu'on change. On ne lit pas comme c'est écrit. On change le mot pour qu'il soit moins grave, Donc bon, c'est une paracha pas très joyeuse. Maintenant, ça c'est vers la fin de Kitavo. Le début de Kitavo il est complètement différent. Comme a dit Raphaël, il y a aussi des brachot. Il y a aussi des bénédictions. C'est écrit au début de la paracha, hein, lorsque tu viendras sur la terre d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu te donne, et tu l'hériteras, et tu t'établiras là-bas, alors tu prendras des fruits de la terre qui se trouveront là-bas. Et c'est quoi ce fruit de la terre ? Les premiers fruits qui vont sortir de tes arbres, tu vas les prendre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas attacher un fil rouge dessus, quand ils vont commencer à pousser. Et après, une fois qu'il aura mûri, tu vas le prendre et tu vas prendre tous les premiers fruits de tes arbres et tu vas les amener au Beth Amikdash dans un panier que tu vas donner au Kohen. Et là, tu vas devoir dire une chose. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas amener au Kohen, ça va être un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Ses fruits, et tu vas dire quelque chose, une phrase de une très belle paracha. Vous savez que c'est obligatoire, ça fait partie des mitzvot assez de la Torah, de dire ça quand on amène au Kohen. Là, Kadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot, et des mitzvot tellement faciles. Juste tu parles, tu fais une mitzvah. C'est pas magnifique ? Qu'est-ce qu'il a écrit ici ? Va Marta et lave, et tu lui diras. Je suis venu maintenant et je suis venu vers cette terre que Akadosh Baruch Hu nous a juré à nos pères de nous donner. Et le Kohen prendra le panier de ta main et il le posera devant Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu diras devant Hashem, Arami Oved Avi. Un araméen, tout le monde connaît ce passage. On le lit quand ? Tout le monde connaît ça. Arami Oved Avi, vous connaissez pas ? La Shira ? Arami Oved Avi. Rabotai, tout le monde fait Pessah ici ou...
Ouais, c'est longtemps Pessah, c'est moi.
Tout le monde fait la Gada ou juste vous mettez le disque, pardon ? Ah, c'est le Arami Oved Avi. Qu'est-ce qu'il dit Arami Oved Avi ? C'est qui Arami Oved Avi ? C'est Lavan. Il a voulu exterminer Yaakov. On lit pour ceux qui lisent en traduit en français. Mon père Yaakov a failli être exterminé par Lavan qui a voulu tout déraciner. C'est cette phrase-là. Vaïred Mitzrayima, et nous sommes descendus en Égypte. Il est descendu en Égypte et il a vécu là-bas un petit peuple. Et là-bas, il est devenu un peuple, comme c'est marqué dans la Gada, grand et puissant et nombreux. Oui, comme ça on lit. Atsum varav, gadol atsum varav. Vayareu otanu hamitzraim. Et ils nous ont persécuté les Égyptiens. Vayanunu. Et ils nous ont fait énormément souffrir. Vaytenu alenu avodakasha. Et ils nous ont donné un service dur. Vanitzak el Hashem eloke avotenu. Vayishma Hashem et kolenu. Vayar et onyenu. Vayet amalenu. Vayet lahasenu. Ça vous rappelle quelque chose ? Si je vous le fais en chantant, ça vous rappelle. Donc, et qu'est-ce qu'on fait ? Et Hachem, il a entendu notre voix. On a crié vers l'Éternel, notre Dieu. Et il a entendu notre voix. Et il a vu notre souffrance. et notre pression. Vayotzienu Hashem et Mitzrayim beyad hazaka ubizrua netuya uvmura gadol ubotot uvmofetim. Il nous a fait sortir à Kadosh Baruch Hu d'Égypte avec d'une main puissante et d'un bras étendu, par des signes, par des miracles, par des prodiges. Vayavienu el hamakom hazeh, et il nous a amené dans cet endroit-là. Vayiten lanu et haaretz hazot, et il nous a donné cette terre. Eretz zavat halav udevash, une terre où coule le lait et le miel. Va'ata hine veti et reshit peri adama, et maintenant j'amène le prémisse des fruits de cette terre qu'Akadosh Baruch m'a donné. Asher natatali Hashem ve'inachto lifna Hashem Elokecha ve'ishtahavita lifna Hashem Elokecha. À ce moment-là, tu le poseras devant Hashem et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Et que nous dit la Torah? Ve'samachta bechol atov Asher natan lecha Hashem Elokecha ulvetecha ata ve'alevi ve'ager Asher bekirbecha. Et tu te réjouiras, tu seras sa mère, tu seras heureux de toute cette bonté qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Tu te réjouiras de cette bonté là-bas au Beth Amikdash, avec le Kohen et le Lévi qui vivent là-bas, et avec le converti qui est parmi tes portes. Tu amèneras tout le monde ici pour faire la fête quand tu amènes ces prémices-là. Tu seras heureux, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Il y a une mitzvah d'être heureux ici. V'samarta bechol atov. Tu te réjouiras de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Ça, c'est la mitzvah des Bikurim. Bikurim, des prémices. Alors bon, il y a une grande question d'abord. Quel est le lien entre la mitzvah des Bikurim et la parasha de Kitavo, la suite? D'accord? Parce que la suite, la vérité, ça n'a rien de joyeux. D'accord? Au contraire. C'est même très, très triste. Oui. Juste avant les malédictions, quand même, la Torah elle nous dit comme ça. Lorsque tu écouteras, écoutez bien, je vous lis directement, je vais traduire directement sans lire. Et voici, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, pour faire, pour garder et faire toutes ces mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui, alors Akadosh Baruch Hu te mettra Elyon al kol goye haaretz, supérieur, plus fort, plus grand, l'élite de toute la planète. Ubawa lecha kol abrachot haele, et toutes les bénédictions viendront sur toi et elles te poursuivront. Les bénédictions te poursuivront. Pourquoi? Parce que tu auras écouté la voix de l'Éternel ton Dieu. Béni tu seras dans ta ville et béni tu seras dans tes champs. Béni sera le fruit de ton ventre, donc vos enfants. Et béni sera le fruit de ta terre et béni sera le fruit de tes animaux. Et tu auras des milliers d'animaux comme bétail, donc une très grande richesse. Béni sera ta figue, ton figuier. Ouais, et tout ça. Et béni tu es quand tu viendras, et béni tu seras quand tu partiras. Hachem donnera tous tes ennemis qui se lèveront contre toi, il te les mettra dans tes mains, et ils fuiront devant toi. Quand ils seront venus vers toi par une seule route, ils fuiront de devant toi comme des rats, d'accord, par plusieurs routes, par sept chemins, tellement ils voudront vite partir. Tellement ils auront peur de toi et ils seront terrorisés de ta face. Hachem ordonnera la bénédiction de tomber sur toi et t'enverra la bracha dans tout ce que tu feras, dans tout ce que ta main touchera. Sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu t'élèvera comme son peuple saint. Comme il te l'a juré, parce que tu auras respecté ses mitzvot et tu es allé dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront ça, verront que le nom d'Akadosh Baruch Hu est appelé sur toi et ils auront peur de toi. Et Hachem te laissera que du bien dans ta descendance, etc., etc. Iftah Hashem lecha et otsaro atov. Hashem ouvrira ses réserves de biens. C'est comment on dit pas ses réserves, son otsar. Sa salle des trésors. La salle des trésors d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? De bonté. Et il ouvrira les cieux pour toi, pour que la pluie tombe en son temps. Et pour que tout le monde ait à manger. Et il te mettra à la tête et pas à la queue. Tu seras toujours en haut et jamais tu seras en bas. Parce que tu auras écouté les mitzvot de l'Éternel ton Dieu, que je t'ordonne aujourd'hui de garder et de pratiquer. Tu ne te détourneras point de ces paroles, ni à droite ni à gauche, pour aller après les dieux étrangers. La suite, on ne la lira pas. Parce que la suite, le verset, il commence. Et si tu ne gardes pas mes mitzvot, voici ce qui t'attend.
Allez-y. En français.
Une phrase. Une ou deux phrases.
Dire tout bas.
Oh, ça fait très peur.
Ne veux pas avoir peur.
On a un mot. Vous allez pleurer après.
Attends, une phrase. Vous voulez une phrase? On va dire une phrase.
De toute façon, on va l'ouvrir. On va le traduire.
De toute façon, on peut
lire. Non, il faut le traduire. Il faut le lire. Mais j'ai pas envie, moi, de le lire. Si tu n'écoutes pas la parole de l'Éternel ton Dieu, et que tu ne gardes pas ses mitzvot, et que tu n'écoutes pas ce qu'il t'a demandé et toutes ses lois, alors viendront sur toi toutes les malédictions qui te poursuivront, et les voici. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Toute ta récolte sera maudite, tes enfants seront maudits et ta terre sera maudite. Tu seras maudit quand tu viendras et tu seras maudit quand tu partiras. Hachem enverra sur toi. Zéo. Nafsik Khan. Celui qui veut voir plus de choses, il prend un chumash traduit, Shabbat matin. Non, avant Shabbat quand même. Pas être triste Shabbat. Il y a des phrases qui sont très très dures, je vous le dis de suite. Ou par rapport aux femmes, qu'est-ce que les ennemis leur feraient. Il n'y a pas besoin de traduire, d'accord. Tout le monde sait ce que des soldats d'une autre armée qu'une armée juive pratiquent quand ils conquièrent un pays. Il n'y a pas besoin de dessin, d'accord. Tout ça, c'est écrit ici. Que ça nous arrivera le jour où le peuple d'Israël abandonne la Torah. Maintenant, si on ne fait pas les mitzvot. Maintenant, quel est le lien? Quel est le lien entre la mitzvah des Bikurim, ouais, la mitzvah d'apporter des prémices à Akadosh Baruch Hu, et toutes ces malédictions. Pourquoi la Torah, Amid, pourquoi nos sages ont décidé que la paracha de Kitavo, là où il y aurait des malédictions, il faut aussi inclure la mitzvah de Bikurim. Ils auraient pu décider que y a le début de la paracha, il soit dans la paracha de Kitetsé, de la semaine dernière. Quel est le lien avec la suite de la paracha? Pourquoi ils l'ont mis dans la même paracha? Vous savez que les parachiotes, c'est nos sages qui ont décidé qu'est-ce qu'on lisait chaque semaine. Quelle paracha on lisait chaque semaine? Où elle commençait, où elle s'arrêtait? C'est nos sages qui ont décidé ça. Maintenant, ils ont décidé ça pas pour rien. Ils ont décidé ça parce que tous les événements en général où ils ont un lien, ou en attendant, par rapport à la semaine dans laquelle ça tombe, il y a un lien, etc., etc. Le lien, il se résume dans un verset, Rabotai. Ce verset, il est au milieu des malédictions et il nous donne la raison précise des malédictions. Et là-dessus, tout juif qui lit ce verset, il a une interrogation. Obligé de s'interroger sur ce verset. La Torah dit Tahat asher lo avadta et Hashem elokecha besimha u betuv levav merov kol. C'est un verset terrible, je vais vous le traduire. Il veut dire quoi? Parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et d'un cœur heureux et joyeux. De tout ce que tu avais, avec tout ce que tu avais. Merov kol, on ne sait pas ce que ça veut dire encore, on va voir. Merov kol, avec toute l'abondance que tu avais. Pourquoi les malédictions? 98 malédictions à Botaï, si vous les lisez, c'est terrifiant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Torah Bessimha. Et parce que tu n'étais pas heureux en faisant la Torah. Donc en gros, cela signifie que non seulement tu m'exiges de faire la Torah, mais que si en plus je la fais, mais que je ne suis pas comme ça toute la journée, d'accord, je mérite une Shoah. C'est ce qui est écrit ici. Je mérite une Shoah. C'est marqué là. Vous partirez chez les goyim et vous persécuteront. Ils tueront vos enfants. Vous verrez les femmes qui mangent leurs enfants parce qu'elles n'auront pas de quoi manger. Et ils vous extermineront. Et ils vous enverront à l'autre bout de la terre. Et vous serez complètement exilés. Et vous n'aurez plus de lien. Et vous serez sous le bâton. Vous aurez peur de tout le monde. Le juif errant. Partout où tu iras, tu trembleras. 98 malédictions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la Torah avec joie. Je pose une question à Kadosh Baruch Hu. Matarotse. Que je la fasse pas du tout? Qu'est-ce que tu veux? Parce que je n'étais pas heureux quand j'étudiais la Torah, parce que je n'étais pas besimha quand je mettais mes tefilines, alors je mérite maintenant d'être découpé par un nazi.
Non, c'est peut-être l'intensité qui parle.
Mais c'est l'intensité maintenant.
C'est la façon de faire la chose, si tu l'as fait toute ta vie en déprimant, en ayant
Il te dit parce que tu n'as pas fait besimha, point. Il ne te parle pas de foi, il ne te parle pas de, non, ni de croyance, ni de crainte, ni de wallo. Il te parle parce que tu n'as pas fait avec joie.
Donc, parce que tu n'as pas mis les émotions qu'il t'a demandé, parce que tu ne l'as pas fait en comprenant
la
qualité des choses.
Peut-être. Alors, je mérite la Shoah. Tu trouves pas que la punition, elle est un petit peu, a priori, elle est un petit peu, comment ils disent,
disproportionnée
ou que la riposte israélienne était démesurée. Ouais, comme ça ils disent. Ouais, c'est un peu démesuré quand même. La riposte d'Hachem est un petit peu disproportionnée.
Ah non, tu m'as fait le comparatif, je trouve.
Mets-moi un coup de bâton. Seder, envoie-moi une petite guerre. Qu'est-ce que tu veux? Si vous lisez, je vous promets, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est complètement disproportionné comme peine, comme punition, a priori. Rashi, ça c'est la première question d'abord. La première question, quel est le lien entre les bikurim et les klalotes? Deuxième question, pourquoi on mérite les klalotes, les malédictions? Parce qu'on n'a pas fait la avodat Hashem besimha. Un petit peu disproportionné, la riposte. Troisième question, on va essayer de comprendre. Rashi dit, c'est quoi Merov Kol? Merov Kol. Il nous dit, Be'ot She'aya Lecha Kol Tuv. Lorsque tu avais tout ce qu'il te fallait, tout le bien. Tout d'abord, Rashi, au cas où je n'avais pas compris avant. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut, Rashi? D'abord, c'est marqué presque exactement la même chose dans le verset. C'est marqué « mais rov kol ». Rov, ça veut dire quoi?
La majorité.
La majorité ou beaucoup, d'accord? J'avais une majorité de tout. Comme ça, il dit le verset. Lorsque tu avais beaucoup de tout, tu n'as pas fait la volonté d'Hachem, « besimha ». Rashi te dit « be'ot shaya lecha kol tu ». Lorsque tu avais tout le bien. Ça d'ailleurs. Bon, alors Rashi vient expliquer ici. Lorsque tu avais tout le bien, tu n'as pas compris. Tu n'as pas été besimha. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas compliqué. On va t'enlever tout le bien. Puisque tu comprends pas quand tu as tout le bien, alors on va te l'enlever. Comme ça, tu vas comprendre. D'accord? Que ce que tu avais quand tu avais le bien. Bon. Alors on va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe ici. Ahmed, quel est le lien entre la paracha de Bikurim, les prémices et les malédictions? C'est que dans la paracha des Bikurim, qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi le dernier verset que je vous ai lu? Et j'ai bien insisté dessus. Vesamarta! Et tu te réjouiras! Tu seras joyeux! De quoi? De quoi? Becholatov. de tout le bien. De tout le bien. C'est quoi le lien? Tu te réjouiras de Cholatov. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Pourquoi Rashi, d'un coup, il a changé l'explication du verset? Il t'a expliqué le verset en te rajoutant un mot. Koltov. Au lieu de Rov, Kol, il t'a dit Koltov. N'oublie pas, le lien entre ici et là, c'est que là, on t'a ordonné d'être sa mère dans ce qu'Hachem il t'a donné. Et toi, pourquoi tu as les clalotes? Parce qu'Hachem, tu n'as pas été sa mère dans ce qu'il te donnait. Tu n'as pas été joyeux dans ce qu'il te donnait. Rashi te dit, tu n'as pas fait la mitzvah d'avant. Il y aura les clalotes. Bon, c'est très joli, ça c'est le lien. Très beau. Très joli. Un peu dur, mais très joli. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? La question, elle est que c'est un petit peu quand même très disproportionné. C'est oui, très disproportionné. Et quel est ce inyan maintenant? C'est quoi ce truc-là d'être en joie quand on fait les mitzvot? D'où on a vu une mitzvah d'être en joie quand on fait les mitzvot?
Du coup, on ne parle qu'une seule mitzvah.
Hein?
Il
n'y
a qu'une seule mitzvah.
Ah, le seul endroit où on a vu qu'il faut de la joie, a priori, ce n'est pas le seul endroit, mais il y a dans Sukkot aussi, c'est marqué « Vesamahta behagecha ». Tu te réjouiras pendant tes fêtes. D'accord? Donc c'est marqué dans Sukkot qu'on doit se réjouir dans tous les Yamim Tovim. C'est très bien. C'est marqué ici quand on amène les Bikurim. Mais qui t'a dit que toutes les autres mitzvot, je dois les faire avec la joie? Qui t'a dit une chose pareille? Où c'est écrit dans toute la Torah? Je demande à tout le monde. Je me défie tout le monde de venir me prouver qu'il y a écrit dans la Torah et tu feras les mitzvot de la Torah avec joie. Je t'ai interdit de transgresser Shabbat. Je t'ai interdit de manger du cochon. Je t'ai interdit tout ce que tu veux. C'est pas ça qui est écrit. Parce que tu as pas respecté Shabbat, alors je t'envoie Esav. C'est pas ça qui est écrit. Il y a marqué parce que tu n'étais pas heureux. Walik. Et la mitzvah, elle est écrite nulle part. Maintenant, imagine tu fais des mitzvot et tu vois pas le résultat de tes mitzvot. Moi, je connais plein de bahurim, d'accord. Ils étudient pendant 3 mois, 4 mois. Et ils s'aperçoivent pas qu'ils ont fait quelque chose. D'accord, ils sont là, ils galèrent à étudier. Ils ne voient pas aucun résultat. En 3 mois, tu ne vois pas le résultat. Le résultat, tu vois en 10 ans. D'accord, le résultat, tu vois à long terme. Mais tu crois que tu vas ouvrir une Gemara, tchik-tchak, tac. En 3 mois, tu sais lire Rashi, Tosfot, Ramban, tu sais faire les pilpoulim. Impossible. C'est avec le temps. D'accord, maintenant, pendant 5 ans que le type il va étudier, s'il n'est pas sa mère. Même quand il galère, il doit être sa mère de galérer. A priori, c'est ce qui sort de là. Mais il n'y a aucun résultat pour l'instant. Il n'est ni rabbin, ni il a la paye du rabbin. D'accord? Ni il a la voiture du rabbin. Ni il a la place du rabbin. Ni personne ne se lève quand il monte à la Torah. Bah, quel résultat il voit? D'accord? Donc, on va essayer de comprendre ça. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va ramener un autre passage dans la Torah. C'est écrit dans la parasha de Vaishlah. Vaishlah Yaakov Malachim le Fanav. D'accord? Il a envoyé Yaakov des envoyés devant lui. Pour faire quoi? Pour tâter le terrain. Pour aller voir Esav, son frère. Yaakov revient d'exil. Il était chez Lavan, le rachat qui a voulu l'exterminer. Il revient en Eretz Israël sur ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il a très très peur parce que son grand frère veut lui faire la peau. D'accord? Ça fait 24 ans, plus que 30 ans. Son grand frère veut lui faire la peau. 36 ans, si je me souviens bien. Et en 36 ans, son grand frère, il ne s'est pas calmé. D'accord? En général, les êtres humains normaux, même s'il a envie de tuer son frère, il n'a pas vu pendant 36 ans, quand il le revoit, il ne pense pas lui mettre un coup de couteau dans la gorge. Il pense un petit peu, il prend des nouvelles ou quoi. Non, mais Esav, lui, c'est bon. Yaakov, il envoie des envoyés, ils reviennent, les envoyés lui disent, l'Aziz, il veut vraiment en finir. Il arrive avec 400 soldats que pour toi. Il ne va pas te rater. D'accord? Yaakov, il est terrifié. c'est ferme à clé. Yaakov, il est terrifié, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prier à Kadosh Baruch Hu et il part en Eretz Israël quand même. Hachem t'a ordonné, c'est pas grave. Même si j'ai peur, Hachem il m'a dit n'aie pas peur, donc j'ai pas peur. Alors il arrive vers Esav et là il se prosterne 8 fois, ou 7 fois, je me souviens plus. Il envoie plein de cadeaux, il machin, tatati, tatata. Bon, il soudoie un peu Esav. Et arrive Esav devant Yaakov. Et d'un coup, il se jette dans les bras de Yaakov. Et il essaye de l'embrasser. Il l'embrasse. Mon frère, ça fait des années, je t'ai pas vu. Tatati. D'un coup, il y a tout qui a changé. Ouais. Bon, Hachem, il a fait changer un peu le cerveau de Esav. 35 secondes. Nos sages, ils nous disent qu'il s'est jeté sur son cou. En vérité, il voulait faire comme les vampires, vous savez. Les vampires, ils bectent la carotide. Ouais. Il voulait faire la même chose. Lui manger la carotide. D'accord. Comme ça, nous disent nos sages. Il a voulu le mordre au cou pour le tuer. D'accord ? Faire semblant de l'embrasser et lui sortir le sang. Et Akadosh Baruch Hu a fait que le cou de Yaakov, il s'est endurci et que Esav, eh ben, il a tapé sur presque de la pierre avec ses dents. D'accord ? Maintenant, en tout cas, d'un coup, il est gentil. Il s'est aperçu qu'il y a un problème ici. On va être sage avec le petit Yaakov. Et d'un coup, ils prennent des nouvelles. Comment ça va la famille ? Comment, etc., etc. Et là, il y a un discours très bizarre. On ne sait pas pourquoi. Donc, Esav, il lui demande, c'est qui tous ces gens qui t'accompagnent? Et Yaakov, il lui dit, ça, c'est tout ce que Hachem a fait grâce à ton serviteur. D'accord? Parce que Yaakov, devant son frère, il fait comme si qu'il est son serviteur. Il lui dit, Hachem a fait grâce à ton serviteur de tous ces biens-là. Et il s'embrasse, etc. Et il amène ses enfants devant Esav et il leur présente, voilà, c'est tonton, etc. Ouais. Et là, il y a un discours un peu spécial. Vayomer Esav. On ne sait pas pourquoi. Esav, il dit à Yaakov, Yeshli Rav Ahi. Yehi Lecha Asher Lach. D'accord. Il lui dit, j'ai tout. J'ai tout. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup de choses. Et toi, tes brachot? Va yomer Yaakov. Iné. Va yomer Yaakov. Et Yaakov, il lui dit, et ça, voici tout ce que Akadosh Baruch Hu m'a fait grâce. Et bon, il lui dit, prends un cadeau de moi, etc. Yeshli kol. Moi, j'ai tout. Parce qu'Hachem m'a fait grâce de tout. Yeshli kol. Donc il y a un discours assez, une discussion assez spéciale entre Esav et Yaakov, son frère. Entre Yaakov et son frère. Une discussion assez spéciale. Un, il dit Yeshli rav, j'ai beaucoup. Et l'autre, il lui dit Yeshli kol, j'ai tout. A priori, pourquoi la Torah, elle nous écrit ces versets? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui s'est dit entre Yaakov et Esav? Qu'un, il a dit « j'ai beaucoup » et l'autre, il a dit « moi j'ai tout ». Ah non, mais moi j'ai beaucoup, et moi j'ai tout, et moi j'ai beaucoup, et moi j'ai tout. Ouais, on parle de la maternelle ici.
Sous-entendu ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin.
Donc, ici il y a... Quand quelqu'un il dit « j'ai beaucoup », ça veut dire quoi?
Il n'a pas
avoir plus.
Il n'a pas plus.
Il est parasasié.
Ça veut dire qu'il a beaucoup. Beaucoup, même plus que ce qu'il faut. J'ai beaucoup. Mais son beaucoup, il n'a pas tout.
Il a besoin encore.
Quand Yaakov, il dit « Yeshli kol », j'ai tout. Ça veut dire, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. La Torah, elle vient ici nous dévoiler quelque chose. Elle vient nous montrer quelle est la différence entre Esav et Yaakov. Esav, c'est un glouton. Esav, tu lui donnes 100, il veut 200. Tu lui donnes 200, il veut 400. Et plus il mange, plus il veut manger. Il n'est jamais rassasié. Je veux encore. Je veux prendre encore ici. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. D'ailleurs, il n'était jamais rassasié puisqu'il prenait les femmes des autres. Mais Fourache, il prenait les femmes des autres. D'accord ? Il allait y violer des jeunes filles fiancées. Elles savent ! Le fils du prince du monde, de la lumière du monde, il se comporte comme un... Esav, il court derrière l'état à vote de ce monde-ci. Il faut courir, il faut manger, il faut prendre. De ce monde, encore, 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 les envies, encore, encore. Et ça suffit jamais. La richesse, j'ai plein de richesses. Esav, il était très riche, Rabotai. Pas un peu riche. Aujourd'hui, Bill Gates, il serait un pauvre à côté d'Esav. Il était ultra riche, Esav. Multimilliardaire. Et il veut encore, encore. J'ai pas assez, il dit à Yaakov. Yaakov, il lui dit, moi, l'Aziz, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout. Il a même pas rajouté ce qu'il faut. J'ai tout. Ça veut dire quoi? J'ai en plus quelque chose que toi, tu n'as pas. C'est que j'ai tout.
Forcément.
Si on examine encore un peu plus, le tout, le mot kol en hébreu, tout, il vient aussi insinuer encore autre chose. Quelqu'un qui a tout, qui sent qu'il a tout dans sa vie, comment il se sent d'après vous?
En plénitude.
En plénitude. Il est en plénitude. Il est bien. Il est ce qu'on appelle en hébreu shalem. Il est en shlemout avec, par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Il est entier, il est en plénitude avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Il ne manque de rien. Il ne manque absolument de rien. Yaakov Avinu, il était, oui, très riche. D'accord. Donc ça, la Torah elle-même décrit ses troupeaux. Alvaï qu'on en ait un dixième. D'accord. Yaakov Avinu, il était, oui, très riche. Mais Yaakov Avinu, il avait une richesse encore plus grande que juste la richesse. Cette richesse-là, matérielle. Il avait une richesse que nos sages ont décrit quelle est la véritable richesse d'un homme. Est-ce que vous savez où nos sages ont décrit quelle est la véritable richesse d'un homme? Pirkei Avot. Nos sages ont dit dans Pirkei Avot, Ezehu Ashir, quel est le riche? Asameach Behelko. Celui qui se contente, qui est heureux de ce qu'il a. Regardez comment c'est beau, comment ça tient bien. Celui qui est Sameach, qui est joyeux de sa part. Ça, c'est le riche. Nos sages n'ont pas dit qui est celui qui est aussi riche. Ou quelle est une personne qui est, peut-être, elle peut être riche. Ils ont dit, quel est le riche? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre riche. Asameach behelko. Celui qui est heureux, joyeux dans sa part, dans ce qu'on lui donne. Ils n'ont pas dit qu'un autre riche, ça existe. Et en vérité, si on regarde bien, si j'enlève à Bill Gates maintenant, bon, je sais pas Bill Gates, je le connais pas, peut-être c'est un sadique, j'en sais rien. En attendant, si je prends un riche qui n'est pas forcément un grand sadique, et que dans sa jet set, comme ça on appelle, la... Ouais. Hein? Non, la jet set, c'est ça. C'est son environnement, là, non? Comme ça, ils appellent ça. Ouais, dans la jet set, son copain, lui, il a acheté un 555e appartement. D'accord? Un loft, 555 mètres carrés, avec un hamsa posé dessus. D'accord, il te dit la vérité. Ouais. Et quand même, il a balancé un hamza. On ne met pas la mezouza, mais on met le hamza. Et il a balancé un hamza dessus. Un loft de fou, les robinets en or, les machins. L'autre riche qui arrive. 555 mètres carrés. Moi, j'en ai que 300. je vous promets que sa souffrance maintenant, elle est plus grande que le pauvre qui n'a pas acheté de pain. Qui n'a pas de quoi acheter du pain. Parce que le pauvre, il lui manque 5 shekels. Lui, il lui manque 50 millions. Je ne sais pas combien ça coûte un 300 mètres carrés sur la 5e avenue. Mais en tout cas, ouais. Et là, lui, il lui manque des milliers d'euros.
Les 5 shekels sont plus vitales pour le pauvre que les 5 millions.
Ils sont peut-être plus vitales, mais il en souffre moins. Moi, je te garantis. Je te garantis. Ils sont peut-être plus vitales, mais il en souffre moins. Parce qu'il sait très bien que ce qui lui manque, c'est pas grand-chose. Or, c'est quoi la souffrance de quelqu'un? La Torah nous a dit, comment on fait du chesed à un pauvre? En lui donnant ce qui lui manque. C'est quoi qui fait souffrir un homme dans le matériel? C'est le manque. C'est ce qui lui manque. Or, le manque du pauvre, il est forcément plus petit que le manque du riche. C'est ça qui le fait souffrir.
Mais aussi la souffrance physique par la fin. La richesse n'a pas ça.
Souffrance physique, c'est... D'abord, c'est pas sûr parce que je te promets que 3 rails de cocaïne, d'accord, ça amène plus de souffrance physique que de manger qu'un repas sur deux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un qui lui manque énormément d'argent, il souffre plus. Un riche, un multimillionnaire, qui va être jaloux de son copain qui a plus que lui, sa souffrance, elle est bien plus grande. C'est pour ça qu'il s'arrête jamais de vouloir encore plus. Qu'il se contente jamais de ce qu'ils ont. Alors qu'un pauvre, une fois que tu lui as donné son bout de pain, il saute au plafond déjà. Il est hyper content déjà. Rien qu'Hachem, il lui a donné 50 shekels pour pouvoir acheter son Shabbat. Déjà, il est hyper heureux. Déjà, il est hyper heureux. Alors que le riche, il ne sera jamais rassasié de ce qu'il a, puisqu'il y en a toujours un de plus. S'il est dans cette ambition, je parle. Hein. Attention, je parle bien d'un riche qui est dans cette ambition. Je ne parle pas de Yaakov Avinu. Je parle de Esav. Esav! Lui, il sera toujours en manque, donc il ne sera jamais rassasié. Il ne sera absolument jamais rassasié. Vient la Torah, elle nous dit, Yaakov, c'est lui le vrai riche. Même s'il avait des biens, mais ils savent qu'il y a encore plus de biens que Yaakov. Il est bien plus pauvre que Yaakov, puisqu'il n'est jamais rassasié. Yaakov, il dit, yesh l'école, ma shechananir, shechoneni Hashem, shkashem m'a fait grâce, yesh l'école, j'ai tout ce que j'ai besoin de rien de plus. De quoi j'aurais besoin? Je suis heureux dans ce que j'ai. Je suis entier dans ce que j'ai. C'est quoi je suis entier? Nous dit le Maharal de Prague, Rabotai. Le Maharal de Prague nous dit que la shlemout, la plénitude, ça amène la joie. Quelqu'un qui est entier dans ce qu'il fait, il est forcément heureux de ce qu'il fait. Donc Yaakov Avinu, quand il dit Yeshlikol, je suis entier, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il dit « Anisameach ». Il est en train de dire « Je suis heureux ». Quand Esav dit « Yeshli Rav ». Mais je suis malheureux. Comme ça dit Esav. J'ai beaucoup, mais je suis en manque. Je n'ai pas assez. Je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai pas ce qu'il me faut. On va essayer de comprendre un peu plus encore que quel est ce inyan d'être heureux, d'être joyeux. Après, on va voir le lien entre tout. Quel est ce inyan, quelle est cette chose-là où il faut être heureux, joyeux, être dans la joie quand on fait la Torah. C'est quoi le inyan de la joie? Et par cet intermédiaire-là, on va essayer de comprendre quel est tout le lien entre Yaakov Avinu, la mitzvah de Bikurim, les klalotes de Kitavo. La Gemara dans Shabbat, Lamed Amud Bet, 30b, pour ceux qui veulent aller vérifier dans Art Scroll. D'accord, 30b. J'ai souvent cité ça dans mes cours. Ceux qui ont déjà vu. La Gemara, elle pose une question. Elle dit, Il y a des contradictions dans le livre de Kohelet. Et on dit là-bas, un coup on dit la simha c'est pas bien, et un coup on dit la simha c'est bien. Le roi Salomon, il a écrit une fois la simha c'est bien, c'est très bien, et une fois il a écrit la simha c'est mauvais. La joie c'est mauvais. Ah, on ne comprend pas. Ya Haboub, Takhlit. Il faut que tu décides. D'accord ? Ou c'est bien, ou c'est pas bien. Mais tu peux pas me dire le jour où tu es heureux, c'est bien. Le lendemain, si tu es encore heureux, c'est pas bien. Si la veille c'était Tisha B'Av et le lendemain c'est Tout B'Av, alors je comprends, mais a priori on parle même de la même simha. Nos sages répondent non. Là on parle d'une simha qui est liée aux mitzvot, et là on parle d'une simha qui est liée aux choses qui ne servent à rien. Donc nous dit le roi Salomon, là où la simha elle est pour les mitzvot, elle est très très bénéfique. Là où la simcha, elle n'est pas pour les mitzvot, elle n'est pas bénéfique. Elle n'est pas bonne. Elle est même peut-être mauvaise. La Gemara nous dit les lamdecha. Écoutez bien, chaque fois que je lis cette Gemara, ça me donne un. Ouais, elle nous dit comme ça. On dit la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Après, vous allez voir tout le lien. C'est les lamdecha. She'en shechina shora. Lo mitoch atzvot. Velo mitoch atzlot. Velo mitoch sehok. Velo mitoch kalut rosh. Velo mitoch siha. Velo mitoch devarim betelim. Velo mitoch simcha. Ela mitoch devar simcha shel mitzvah. Nos sages nous disent, pour t'enseigner. Pourquoi Salomon il est venu dire ça? Pour t'enseigner. Que la shrina, la présence divine, ne réside pas dans un endroit où il y a de la tristesse. Et pas non plus dans un endroit où il y a de la fainéantise, comme ça on dit. De la fainéantise. Et pas non plus dans un endroit où on s'éclate de rire. Et pas non plus dans un endroit où on a de la kalout roche, de la légèreté d'esprit, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Encore tout ce qui est en dessous de la taille. Velo mitor siha, et pas quand on parle pour rien, on discute stam pour rien. Ouais. Et il y en a en vérité, il vient de dire ici velo mitor simha, c'est écrit, c'est une erreur d'impression. Velo mitor simha, pas dans la joie. Velo mitor devarim betelim, et pas quand tu parles de ch'touyot. Devarim betelim, c'est vraiment des choses qui servent à rien. Là, parler pour rien, c'est quoi? C'est parler de ta parnassa, etc., pendant que tu es en train d'étudier. Ouais. Et Devarim Betelim, c'est tu vas parler, je sais pas, de qui c'est le président. Ouais, ça, c'est vraiment c'est des choses qui ne servent absolument à rien. Et là, Mitor Davar Simha Shel Mitzvah. Où réside la Shrina? Dans un endroit où il y a la joie de l'application des mitzvot. Uniquement dans un endroit de joie de mitzvah, Rabotai. Pas dans un endroit de joie pour rien, qui ne sert à rien. La shrina ne réside que dans un endroit où on est heureux de faire les mitzvot. Si on n'est pas heureux de faire les mitzvot, tu fais oui tes mitzvot, mais il n'y a pas de shrina qui vient. La présence divine ne vient pas. Comme ça nous disent nos sages. Et on l'apprend du roi Salomon, des versets qu'il a écrits. Là où il n'y a pas de joie dans la pratique des mitzvot, il n'y a pas la présence divine. Quel rapport? Le rapport, il est comme ça. D'après ce qu'on a dit du Maharal de Prague, Rabotai, c'est très clair. On voit dans la paracha du Vaudor que Moshe Rabbeinu, quand il est descendu à Kadosh Baruch Hu sur la montagne, il lui dit descends, ton peuple il a fait le veau d'or, ils ont fait Avodah Zara, ils ont fait de l'idolâtrie. Moshe Rabbeinu il prie pour demander pardon pour les bénis Israël machin et tout, et Hachem il lui dit Beseder, mais descends quand même. Et il descend, et quand il descend, c'est marqué Moshe Rabbeinu il voit le veau, il voit l'Ibné Israël qui danse devant le veau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tables de la loi. Vous avez tous vu le film, hein? Il prend les tables de la loi et il les jette. Et il les casse. Un truc. Vous imaginez, rien que nous, on fait tomber la Torah, on doit gêner pendant... D'accord? Moshe Rabbeinu, il prend les tables de la loi écrites par Akadosh Baruch Hu, lui-même, où c'est un miracle en soi, puisque elles étaient percées par les quatre côtés. D'accord? On pouvait voir les... Et ça passait de part en part. Et c'était de la lumière qui sortait. D'accord? Les lettres, elles étaient comme ça. Il vient... Et il les jette par terre, il les brise. Il s'énerve, c'est marqué, Vayharaf Moshe. Il s'est énervé. Le Sforno sur place, il pose la question, il dit, je comprends pas quelque chose. Makaralo le Moshe. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il s'est pas énervé là-haut? Pourquoi il s'énerve en bas?
Parce qu'il a vu.
Et alors, mais tu as vu, tu n'as pas cru HM?
S'il a cru, mais il fallait le voir.
Ah, fallait le voir. Là, je crois pas. Si tu as fait la Avera, si tu es pas content qu'ils ont fait la Avera, qu'ils ont fait la Vodazara, alors énerve-toi là-haut. Pourquoi tu pries pour eux? Pas seulement ça. Dès qu'ils cassent, il dit celui qui vivra pas par la loi, il mourra par la loi. Et machin, il leur donne de tuer de tous ceux qui ont fauté.
Peut-être qu'ils voulaient qu'on voit, qu'ils
s'énervent. Il voulait qu'on voit. Alors casse les tables là-haut. Si tu dois casser les tables déjà.
Il voulait que le peuple voit les tables.
Pourquoi il s'énerve? S'il fait ça pour faire semblant de s'énerver, alors qu'il fasse semblant de s'énerver. Ou alors il était déjà énervé en haut. Mais pourquoi la Torah elle dit à ce moment-là il s'énerve? Juste en haut, il pleure pour eux. Et maintenant quand il descend, il les voit faire la faute. D'un coup il s'énerve. La Torah elle dit il s'énerve à ce moment-là.
Leur joie vaine, dans quelque chose de vain. Ouf.
Là ça dit autre chose.
Il a vu à quel degré d'intensité?
Mon cher Rabbeinu. Juste quand il est en haut, Hachem ne lui a pas dit ils ont fauté en dansant. Ils ont fait avodah zara. Moshe Rabbeinu à ce moment-là, il prie. Pardonne-les, ils sont trompés. Mais quand il descend, il les voit danser. Vous êtes joyeux dans à la avodah zara. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharal, il explique. Vu qu'ils sont joyeux dans la Avodah Zara, ça veut dire qu'ils sont complètement entiers avec cette Avodah Zara. Ils sont en shlemout avec la Avodah Zara. Ils sont en plénitude dans cette Avodah Zara. Tu es en plénitude avec la Avodah Zara, tu ne peux plus recevoir la Torah. Donc je la casse. À ce moment-là, je m'énerve. Parce que tu es heureux de faire une Avera. Tu es besimha quand tu fais la Avera. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Vous voulez que je réside parmi vous? Pourquoi? Que la Shrina réside dans le peuple d'Israël, il faut être collé à Kadosh Baruch Hu. Pour être collé à Kadosh Baruch Hu, la Torah nous a dit il faut aller dans ses voies. Pour aller dans ses voies, il faut faire ses mitzvot. Mais comment? Pour être collé, pour être en plénitude avec les mitzvot, c'est qu'on les fait dans la joie. C'est quoi la preuve qu'on est en plénitude avec ses mitzvot? C'est parce qu'on les fait dans la joie. Mais si on les fait dans la tristesse, on n'est plus du tout en plénitude. Donc la Shrina, elle ne vient pas. La présence divine, elle ne vient pas. Donc c'est ça que nos sages ils nous disent. Si tu n'es pas dans la joie quand tu fais les mitzvot, dans quel endroit la présence divine réside? Que dans un endroit où tu es en joie. Pourquoi? Parce que du coup, tu es entier avec Akadosh Baruch Hu. Tu es collé à ces mitzvot. Du coup, il peut venir avec toi. Sa présence peut venir résider avec toi, peut venir résider dans ta maison. Ta maison, c'est une lumière pour tout le peuple d'Israël, c'est une lumière pour l'humanité. Tu es le phare de l'humanité si tu fais les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu dans la joie. Tu es le phare de l'humanité, l'exemple de l'humanité. Ce que tout le monde rêverait être, ce que tout le monde veut suivre. Mais quand on te voit dans la rue, tu dis comme ça. Hailou l'Hachem. Tu as profané le nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle nous dit, mais si tu n'es pas Bessimha, il n'y a pas la Shrina. Et alors, ça fait quoi? S'il n'y a pas la Shrina, si tu n'es pas Bessimha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas content de ton sort. Ça veut dire qu'il te manque. Ça veut dire que tu ressembles à Esav. Ça veut dire que tu ressembles à Esav. Or, si tu ressembles à Esav, tu ne peux pas recevoir la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant... C'est quoi le discours entre Esav et Yaakov, Rabotai? Esav, il dit, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Yaakov, il dit, Yeshli Kol, Écoutez bien ça. Que nous dit la paracha? Tahat asher lo avadta et Hashem Elokecha. Mais rov kol. Mais rov kol. Si vous regardez le mot rov, vous pouvez vérifier, il est écrit sans vav. Il s'écrit resh bet. Ça se lit comment?
Rav.
Ça se lit rav. Nous dit Rashi, parce que tu n'étais pas heureux de tout le bien qu'Hachem t'a donné. Pourquoi la Torah a utilisé le mot rav? D'accord, on le lit rov, mais il s'écrit rav. Beaucoup. Du beaucoup, tout. Oh, tu me fais une tchertchouka de Esav et de Yaakov ici? Tu fais quoi là? La Torah, elle te dit, parce que tu as voulu rov. Mais rov, du beaucoup. Mais rav, du beaucoup. Tu n'as pas vu le col. Parce que tu voulais le rov, tu n'as pas vu le col. Tu n'as pas vu ta plénitude. Tu n'as pas été heureux dans ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Donc tu ne peux pas faire la mitzvah de Bikurim. Pourquoi tu ne peux pas faire la mitzvah de Bikurim? Parce que c'est quoi les Bikurim? C'est prendre le fruit que tu as galéré pendant un an pour pouvoir l'avoir. Et le premier qui sort de chacun de tes arbres, tu vas venir. C'est le premier, c'est celui qui te réjouit le plus. D'accord? C'est celui que toi tu es le plus heureux. Ma, tu as galéré, tu as labouré ta terre. Tu as arrosé, tu as gaspillé de l'argent. Tu as fait ci, tu as traité tes arbres. Tu as taillé, tu as fait ci, tu as fait tout un truc pendant 10 mois. Maintenant arrive le moment où ils sortent les fruits. Le premier fruit qui vient, tu dois mettre un fil rouge dessus et dire Kadosh l'Hachem. Il est pour Hachem. Mais attends, un an de travail pour venir dire le prendre et aller le mettre au Kohen? Et moi, mon kiff à moi, il est où? Pour Hachem. Ton kiff, tu le prends, tu le mets pour Hachem. La Torah, elle te dit, si tu veux rov, tu ne pourras jamais faire cette mitzvah réellement. Tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras pas lire toute cette paracha qu'on te demande de lire. Varchav, samarti, bechol atov. Je suis heureux de tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Tu ne peux pas parce que tu as Aïnara comme Esav. Tu vois que ce qui te manque. Tu ne vois jamais ce que tu as. Donc tu as Aïnara comme Esav. Tu ne pourras jamais être heureux. Tu ne pourras pas faire les mitzvot. Hachem attend que tu sois complet dans ces mitzvot. Ah, tu as voulu voir le rov et pas le kol. Donc tu n'étais jamais heureux en faisant les mitzvot. Si tu n'es pas heureux en faisant les mitzvot, il n'y a pas de shrina. S'il n'y a pas de shrina, c'est quoi qui te protège des ennemis? C'est la présence divine qui réside parmi toi. Mais s'il n'y a pas de présence divine, vu que les antisémites ont la haine de toi, depuis que tu as reçu la Torah parce qu'ils sont jaloux de toi. Comme la Torah nous dit, nos sages nous disent, le Midrash dans Yitro, il dit quoi? Il dit pourquoi le Har Sinaï s'appelle Sinaï? Arrête, le Har Sinaï s'appelle comment dans la Torah? Horev. Le mont Horev. Pourquoi il s'appelle Har Sinaï aussi? Pourquoi il a deux noms celui-là? Un coup Horev, un coup Sinaï. Qu'est-ce qui lui est arrivé celui-là? Pourquoi Sinaï? Nos sages nous disent parce qu'au moment, il s'appelait Horev. Mais au moment où les Bnei Israël ils ont reçu la Torah, sur le mont Sinaï, la Sina des nations, la haine des antisémites, elle est tombée sur le monde. Parce qu'ils ont été jaloux. Quoi? Le peuple d'Israël, il reçoit la Torah que nous, on n'a pas voulu accepter. Il y a un peuple qui est capable de faire ce qui est écrit dans cette Torah. Il y a un peuple qui est capable de prendre ça pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ils vont réussir? On ne les laissera pas réussir. Comme l'élève qui est jaloux. D'accord? Le cancre de la classe, il tabasse toujours les têtes de classe. Toujours. Le cancre, il attrape la tête à la sortie du cours, il lui dit, tiens, une bonne note, je te flingue. Tu me donnes ton goûter. D'accord? Ceux qui ont grandi dans les écoles laïques, ils ont compris ce que c'était d'être un juif qui a des bonnes notes à l'école laïque. Ouais. Donc si tu n'es pas Bessimha, il n'y a plus de shrina pour te protéger. S'il n'y a plus de shrina pour te protéger, c'est pas une punition. C'est une conséquence directe. S'il n'y a plus la shrina, vu que le monde entier te hait, forcément tu as leur merci. C'est pas du tout une punition. Du coup, c'est absolument pas disproportionné. Puisque c'est une conséquence directe, c'est Hachem, il ne veut pas ça. Il ne te punit pas. Il te prévient que si tu ne fais pas la mitzvah besimcha, alors du coup, je ne suis plus parmi toi. Je ne réside plus dans ce temple. Je ne réside plus dans ce temple. Comme Titus, il a dit quand il a détruit le temple. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai tué Dieu. Titus, il marche, mauvais écho. Il est venu, il a mis un coup d'épée dans le rideau qui était devant le Kodesh à Kodashim. Et Hachem, il a fait un miracle que le rideau, il a saigné. D'accord? D'un coup, il a levé les yeux au ciel, il a dit, j'ai tué Dieu. Tu as tué Dieu. Une voix, elle est sortie, elle lui a dit, c'est tembel que tu es. Racha ben racha. Comme ça, elle dit la Gemara. Hachem, il lui a dit, racha ben racha. Tu as détruit une maison qui était déjà détruite et tu as brûlé une maison qui était déjà brûlée. Tu n'as pas compris que si tu as pu rentrer jusqu'ici, c'est que moi, je suis déjà parti. Sinon, même pas, tu aurais passé le pied, tu serais brûlé sur place.
Produisons alors.
Pour le faire tomber encore plus bas. Parce que derrière chez Adam Rotzela, les chètes m'ont les chinoto. Dans la route qu'un homme veut prendre, on le dirige. Tu veux être un rachat, on va te faire tomber jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc Titus, maintenant, il s'est trompé complètement. Maintenant, de quoi elle parle? La paracha de Kitavo, regardez comment tout se rejoint. Les clalotes de Kitavo, vous savez, il y a deux parachutes où il y a des clalotes dans la Torah. La première, c'est Bechukotai. La deuxième, c'est Kitavo. La première, elle parle de quoi, nos sages nous disent? Elle dévoile l'exil de Babylone. Le premier exil dans lequel la fin de l'exil est écrite dedans. En tout cas, il y a des allusions. La deuxième, de Kitavo, de qui elle parle? De l'exil de Édom, de l'exil de Esav. L'exil de l'Occident, dans lequel nous nous trouvons encore aujourd'hui, même en Eretz Israël. Nous sommes encore en exil sous le poids de la mentalité de Esav. C'est bizarre que ça tourne autour de Rov Kol. L'exil de Esav. Tu voulais être ressemblé à Esav, Akadosh Baruch Hu te dit, tu voulais encore manger, tu veux en l'amaser. Ah, je vais t'envoyer chez Esav. Et tu vas voir qui est Esav. Tu vas voir son véritable visage. Et tu vas comprendre. Et là-bas, tu continueras à me servir. Avec rien. Et tu seras heureux de ce que tu auras là-bas. Même si tu n'auras rien. Ceux qui feront les mitzvot, ils seront quand même heureux parce qu'ils auront compris la leçon. Et lorsque tout le monde aura compris la leçon, alors vous pourrez revenir. Mais tant qu'on ne comprend pas... Et en vérité, la fin de l'exil de Esav, elle n'est pas enseignée dans la paracha. Il n'y a pas de fin allusionnée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une date limite dans le temps, puisque ça ne dépend que de vous. Cela ne dépend que de nous. Quand vous déciderez de comprendre que la mentalité de Esav, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle qu'Akadosh Baruch Hu attend. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas qu'on veuille du monde. Il attend qu'on soit heureux de tout ce qu'il nous donne pour pouvoir accomplir ses mitzvot, comme la mitzvah de Bikurim. Tu m'as donné un arbre, je prends cet arbre-là, le premier fruit. Je te l'offre, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je sais que tout appartient. Et je sais que ça, c'est toi qui m'as fait cadeau. Donc je te le rends. Et après, je pourrai manger le reste. Et la Shrina, elle résidera parmi nous. Et aucun ennemi, ni à l'ONU, ni nulle part, ne pourra venir nous embêter. Aucun ennemi. Et on sera le phare de l'humanité. L'exemple de toute le genre humain. L'exemple du genre humain. Le juif qui pratique la Torah. Et qui a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Shenizke be'ezrat Hashem, devant la Geoula Bekarov, de comprendre ça. Et... de voir le binyan de Bet Amikdash, Bimera Biamenu, et d'être sa mère de Bet Amikdash devant Akadosh Baruch Hu avec le Mashiach.